RFI, 18h à New York et à Port-au-Prince, 23h en temps universel et minuit ici à Paris. Et c'est à vous Antoine Galen pour le journal. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. À la une, alors que les Américains et les Russes s'apprêtent à se rencontrer à Riyad pour parler de l'Ukraine, réunion de crise de plusieurs dirigeants européens à Paris ce lundi après-midi. La Hongrie n'était pas sur la liste des invités. Elle félicite l'initiative de Donald Trump de négocier sans l'Europe. Dans ce journal également, l'hospitalisation du pape François va se prolonger. Mais les nouvelles sont plutôt rassurantes. Et puis nous quitterons en musique le saxophoniste Adrien Soleiman sort son deuxième album, Bell Jazz Club. Vous avez les titres ? Bienvenue. Réunion d'urgence à l'Elysée ce lundi après-midi. Plusieurs dirigeants européens se sont rencontrés à la demande d'Emmanuel Macron. Sujet abordé, la sécurité européenne et l'Ukraine. Une réunion à la veille de la rencontre entre Américains et Russes en Arabie Saoudite. Donald Trump veut négocier en tête-à-tête avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Pour les dirigeants européens, il est donc indispensable d'être unis. Mais la Hongrie, qui n'était pas invitée à Paris, fait entendre une voix de plus en plus discordante. Florence Labruyère à Budapest.
La décision de Donald Trump de négocier directement avec Vladimir Poutine a choqué les Européens. Mais le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, applaudit l'initiative de Donald Trump.
Nous sommes persuadés que les efforts de Donald Trump vont porter leurs fruits. Le dialogue entre Américains et Russes peut ramener la paix en Ukraine.
Le ministre de Viktor Orban accuse même les dirigeants européens de vouloir saboter les chances d'un retour à la paix.
Aujourd'hui à Paris, des dirigeants européens frustrés, pro-guerre et anti-Trump se réunissent pour empêcher un accord de paix en Ukraine.
Depuis plusieurs années, Viktor Orban affiche sa proximité avec Moscou. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche semble conforter le Premier ministre hongrois dans ses positions. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Et après ce sommet à Paris, pas d'annonce ou de déclaration commune pour le moment. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé son arrivée en Turquie pour rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan. Au Proche-Orient, Israël commence à se retirer du Liban, mais affirme vouloir y maintenir ses troupes. Selon l'accord de cessez-le-feu, l'État hébreu doit pourtant se retirer d'ici mardi. Le porte-parole de l'armée israélienne s'y oppose et indique le maintien de troupes de 5 positions dans le sud du Liban. Avant cette annonce, le président libanais Joseph Aoun avait appelé les États-Unis et la France à faire pression sur Israël. Le pape François, dans un état stable, son hospitalisation va se prolonger. Il est pris en charge depuis vendredi dernier à l'hôpital Gemelli de Rome. Le souverain pontife de 88 ans souffre d'une infection des voies respiratoires. Les informations concernant la santé du pape François sont plutôt rassurantes, même si elles ont suscité l'inquiétude ce lundi. Éric Sénanc à Rome.
Le dernier communiqué du Vatican a été publié peu après 19h heure de Rome et souligne que le pape poursuit sa nouvelle thérapie, qu'il n'a pas de fièvre et que ses conditions cliniques sont stables. Des nouvelles plutôt rassurantes alors qu'on apprenait à la mi-journée que les dernières analyses faisaient état d'un cas complexe d'infection des voies respiratoires et que l'hospitalisation du pontife argentin serait beaucoup plus longue que prévu. Le Vatican n'a d'ailleurs pas donné de date de sortie, mais on sait que l'audience générale de mercredi prochain a été annulée. Toujours selon la salle de presse du Saint-Siège, François a pu communier ce lundi matin lors de la messe et s'est ensuite consacré à quelques activités de travail et à la lecture de textes. Le pape qui remercie aussi tous ceux qui lui ont envoyé des messages de rétablissement ou des dessins, peut-on lire encore dans le communiqué. Le souverain pontife de 88 ans est donc sous étroite surveillance des médecins de l'hôpital Gemelli de Rome, la même où en mars 2023 il avait déjà passé quelques jours pour une infection pulmonaire. François a reçu enfin de nombreux témoignages de proximité d'autres patients du célèbre hôpital romain. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Une guerre des mots entre le Mexique et les États-Unis. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum menace de poursuivre Google en justice si l'entreprise continue d'utiliser sur ses cartes l'appellation « Golfe d'Amérique ». Donald Trump avait signé un décret fin janvier pour renommer le Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique, un nouveau nom uniquement visible par les utilisateurs américains. La présidente mexicaine demande à ce que seule la partie américaine du Golfe change de nom et que la zone géographique entre le Mexique et Cuba conserve l'appellation précédente. Aux États-Unis, la bataille judiciaire autour de la méthode et la légalité de la gouvernance Trump franchit une nouvelle étape. L'administration conteste une décision de justice devant la Cour suprême américaine. C'est la première fois que la plus haute instance judiciaire du pays est sollicitée dans ce flot de décisions. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Au départ, il y a une décision intervenue le 7 février, celle de mettre fin par courrier électronique et en une phrase aux fonctions du patron de l'agence fédérale censée protéger les lanceurs d'alerte qui sont également employés fédéraux. Seulement, Anton Dellinger, c'est son nom, ne se laisse pas faire et il conteste son licenciement en justice. En première instance, elle lui a donné raison et a ordonné qu'il soit rétabli dans ses fonctions. L'administration a fait appel et samedi, la décision de première instance a été confirmée. Dans son recours devant la Cour suprême, l'administration Trump dénonce une attaque sans précédent contre la séparation des pouvoirs. Elle estime qu'aucun juge n'a jamais forcé le président à conserver un directeur d'agence ou ne l'a empêché de désigner son successeur. Plus largement, l'administration demande qu'il soit mis fin à la tendance qui dure depuis plusieurs semaines de certains juges d'échelon inférieur d'entraver son action. Il y a eu une quarantaine de poursuites judiciaires contre des décisions et une douzaine ont été bloquées. La Cour à majorité conservatrice et dont 3 des 9 membres ont été désignés par Donald Trump au cours de son premier mandat a plusieurs jours pour se prononcer et cela pourrait arriver dès ce mardi. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
L'ONU demande 6 milliards de dollars pour aider près de 26 millions de Soudanais. Le pays est ravagé par la guerre civile entre les paramilitaires des forces de soutien rapide et l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, et ce depuis avril 2023. La moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire. Les agences des Nations Unies soulignent que près de 12 millions de personnes ont été déplacées, dont 3,5 millions ont fui le Soudan depuis le début de la guerre. C'est la fin d'un long feuilleton. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2025 a été adopté ce lundi par le Sénat. 225 voix pour, 104 contre. La semaine dernière, ce budget qui avait fait tomber le gouvernement de Michel Barnier a été adopté à l'Assemblée nationale par 49-3. Une affaire qui prend de plus en plus d'importance. En France, un avocat réclame une enquête pour entrave à la justice dans l'affaire de viol survenu en 1998 au sein de l'établissement de Bétaram. Ce dimanche sur TF1, un gendarme chargé de l'enquête avait évoqué une intervention de François Bayrou auprès du procureur de Pau à l'époque. Le Premier ministre dont les enfants ont fréquenté l'établissement dément. Samedi, celui qui était à l'époque ministre de l'Éducation a rencontré les victimes et promis des moyens supplémentaires. Retour au garage, le constructeur Citroën demande à près de 230 000 automobilistes d'arrêter de conduire leur voiture. Les airbags des modèles C3 et DS3 fabriqués entre 2009 et 2013 dans le nord de la France pourraient être défectueux. Ces airbags de la marque Takata sont susceptibles de causer de graves blessures et ont déjà provoqué au moins un décès en métropole et 11 en outre-mer. Et puis on se quitte avec de la musique et le jazz pop d'Adrien Souleymane. Le saxophoniste et producteur français sort son deuxième album, Bel Jazz Club. 8 titres d'envolée stylistique enregistrés en compagnie de sa bande d'amis, Olivier Roguez.
À l'époque des machines musiciennes et autres compositeurs virtuels, les instrumentistes ont des atouts à faire valoir. Bel Jazz Club et ses 8 pistes d'une musique aussi originale qu'envoûtante clament haut et fort une évidence qu'on a parfois tendance à oublier. Rien ne remplacera jamais la force émotionnelle d'une bande de musiciens exprimant leur liberté, leur versatilité et surtout leur virtuosité. Adrien Souleymane, saxophoniste, jazzman, amoureux de la pop musique, est un artiste hors norme, ce qui n'a pas échappé au milieu parisien qui lui court après pour produire et composer. De Juliette Armanet à Philippe Catherine, en passant par Malik Djoudi, tous les talents actuels font appel à ses services. Résultat, Bel Jazz Club n'est que le deuxième album personnel qu'il a eu le temps de composer en une décennie. Une œuvre élaborée en compagnie d'une dizaine de musiciens et d'artistes réunis en studio. La musique est un partage, affirme Adrien Souleymane. Et le jeu collectif, un plaisir infini, dit-il. Alors, prenons du plaisir.
Bel Jazz Club, deuxième album d'Adrien Souleymane. Ce sera le choix musical d'RFI à 8h52. Et puis nous fermons ce journal avec du football. Le FC Barcelone s'impose 1-0 face au Rayo Vallecano. Les Barcelonais prennent la tête de la Liga et dépassent leur rival du Real Madrid. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir écouté.